Chapitre troisième. Personne ne voulant d'Ivranche la Folletière, ce fut Hélène qu'on nomma. « Si vous réussissez, lui dit M. Malattiré, cela vous fera honneur et vous classera d'une façon avantageuse. Mais si elle ne réussissait point, elle verrait bien. » Ce fut sur ce mot qu'elle quitta Condé pour se rendre avec sa grand-mère à Ivranche. C'était une grande affaire à Ivranche que l'arrivée de l'institutrice de l'école communale. Le député avait écrit au maire pour la lui recommander. Celui-ci, heureux de rédiger, avait écrit une belle lettre à Hélène qui elle-même avait répondu au maire. On avait lu sa lettre en plein conseil municipal et les conseillers libéraux avaient trouvé qu'elle avait une jolie écriture tandis que les conseillers cléricaux avaient déclaré que cette écriture ne valait pas celle de la sœur Philigone et de la sœur Ambroisine qu'elle venait remplacer, de sorte que ce n'était pas la peine de changer. Là-dessus, un conseiller libéral nommé Pelledieu, qui était un homme d'initiative, toujours prêt à se mettre en avant, ce que ses moyens lui permettaient, disait-il avec raison, car il était un des plus riches herbagers de la contrée, là-dessus, Pelledieu, piqué de cette observation, avait émis l'idée qu'on ne pouvait pas recevoir comme ça, tout simplement, l'institutrice qui venait pour faire la barbe aux sœurs, et cette plaisanterie avait eu d'autant plus de succès que les moustaches de la sœur Philigone étaient célèbres à Ivranche. « Alors la seule chose que nia, dit Pelledieu en employant cette locution qu'il s'était faite et qui, chez lui, annonçait toujours une conclusion, c'est que je propose de la déménager et de l'amener ici moi-même avec ses meubles un jour que j'aurai été au marché de Condé et que je reviendrai à vide. » Un samedi, vers 2 heures de l'après-midi, Hélène avait donc vu une charrette à ridelles, attelée de 2 superbes juments poulinières, s'arrêter devant la porte. Debout à côté contre une des ridelles, conduisant son attelage, les coudes écartés et les bras arrondis, se tenait un grand gaillard de forte encolure, au teint allumé et couleur cidre doux. Sa barbe blonde encadrée dans un immense col blanc, coiffé d'un chapeau à haute forme, qu'on appelle dans le pays une pompe, parce qu'il ressemble à une cheminée de pompe à feu, vêtu d'une longue blouse bleue lustrée, endossée par-dessus un habit vert, Pelledieu lui-même, Isidore Casimir. « Bonjour, mademoiselle, et la compagnie. C'est moi qui viens pour enlever vos meubles. La seule chose qu'il n'y a, c'est de savoir si vous êtes prête. » Hélène était prête. Les lits étaient démontés. Ceux qui pouvaient être mis dans des paniers avaient été emballés. « J'ai apporté quelques bottes de fer, » dit Pelledieu. « Nous allons empailler tout ça. Nous pourrons trotter sans abîmer les meubles. La seule chose qu'il n'y a, c'est que de savoir si vous avez quelqu'un pour me donner un coup de main. » Et tandis qu'Hélène allait chercher de voisins complaisants qui s'étaient mis à sa disposition, Pelledieu se débarrassait de sa pompe, de sa belle blouse et de son habit. En moins d'une heure, la voiture fut chargée. Pelledieu, Hélène et les deux voisins s'empressaient à qui mieux, tandis que la grand-mère, assise sur une malle, les regardait faire mélancoliquement. Les voisines vinrent lui dire adieu et comme Hélène passait à côté d'elle, à un certain moment, elle entendit sa grand-mère dire « Si ça pouvait être la dernière fois que je change mes os de place. » Et ce mot lui serra le cœur comme un funeste présage. Mais elle n'eut pas le temps de s'abandonner à cette triste pensée. La voiture était chargée et arrimée. Pelledieu les invita à monter. « J'ai gardé 2 bottes de fer, » dit-il. « Vous pourrez vous asseoir. La seule chose que n'y a, c'est que ça manque de ressort. » Ça en manquait complètement, et quand Pelledieu, debout contre sa ridelle, eut mis ses juments au trot, Hélène fut terriblement secouée. Mais comme sa grand-mère ne se plaignait pas, elle ne se plaignit pas elle-même. « Si je vais vite, » dit Pelledieu en ralentissant son allure dans une montée, « c'est que je voudrais arriver en plein jour pour faire la barbe aux sœurs. Nous passerons devant leur porte. Elles verront que vous avez du mobilier. Elles rageront. » Il était cependant bien modeste, ce mobilier. Mais comme il avait été acheté par M. Marguerite au temps où celui-ci comptait sur 10 bonnes années de travail, il pouvait encore faire belle figure, sinon par la quantité, au moins par la qualité. La route pour aller à Ivranche les faisait passer par Bézuba, qu'Hélène eût bien voulu traverser simplement sans s'y arrêter, car elle ne tenait pas du tout à voir sa tante Toucha. Mais une conversation qui s'engagea entre Pelledieu et sa grand-mère lui montra bientôt que cela ne serait pas possible. « Si vous voulez que nous fassions une pause chez votre frère, » dit Pelledieu, « il ne faut pas vous gêner. » Les juments souffleront, et elles rattraperont bien le temps perdu. « Veux-tu, Hélène ?» demanda la grand-mère timidement. « Mais sans doute, grand-maman, si cela vous est agréable. » Je serais bien aise de voir mon frère et de l'embrasser encore une fois avant de mourir. Il pourra bien venir vous voir à Ivranches, dit Pelle-Dieu, il n'y a pas si loin. C'est qu'il ne sort pas souvent, dit la grand-mère. Au fait, ce n'est pas lui qui porte les culottes, dit Pelle-Dieu, il paraît que sa femme le mène haut la main. On ne tarda pas à arriver devant le porche couvert en chaume qui abritait la barrière donnant entrée dans la cour de la ferme de la tante Touchat. Mais il ne se trouva que la femme à la maison. Le mari et les garçons étaient au champ, à plus d'une lieue de la ferme, justement du côté de Condé, non du côté d'Ivranches. « Savez-vous, ma nièce, que j'ai à vous gronder de ne pas m'avoir prévenu ?» dit la tante Touchat en prenant ses grands airs. « J'étais à la disposition de M. Pelle-Dieu, » dit Hélène. « Mais justement, » insista la tante, « j'ai à vous gronder de ça aussi. Pourquoi vous adresser à des étrangers quand vous avez des parents? C'est mortifiant pour nous, vous savez. J'ai assez de chevaux dans mon écurie et assez de voitures pour faire votre déménagement. » « C'est une politesse que le conseil municipal a voulu faire à mademoiselle, » dit Pelle-Dieu. « Pour alors, c'est différent, » répondit la tante, que cette raison parut toucher dans son amour-propre. Cependant, malgré cette satisfaction, elle ne se radoucit pas pour sa nièce et au moment du départ, elle la prit en particulier. « Pourquoi donc vous a-t-on renvoyé du château de Courtomer ? » demanda-t-elle. « On ne m'a pas renvoyé. Alors pourquoi n'y êtes-vous pas resté ? » Parce que j'ai eu des raisons pour m'en aller.
Quelles raisons ?
Des raisons qui ne me permettaient pas de rester. Vous devriez bien les dire, ces raisons. Cela ne me convient pas. Eh bien, vous avez tort. Si j'ai un conseil à vous donner, dans votre intérêt et dans celui de votre famille, c'est de parler. Ma famille n'a rien à voir dans cette affaire. C'est ce qui vous trompe. Comment cela ? Votre famille a intérêt à ce que les accusations qu'on porte contre vous ne retombent pas sur elle. « Quelles accusations? Vous savez bien. Je vous jure que je ne sais rien, et je vous demande de vous expliquer. Si vous voulez que je repousse ces accusations, il faut bien que je les connaisse. Eh bien, on dit que vous avez été renvoyé de Courtomer parce que vous vous faisiez faire la cour par le jeune comte.
Oh!
Dans l'espérance qu'il vous épouserait un jour. » Hélène resta écrasée. Mais après le premier moment de surprise, elle releva la tête, et passant devant sa tante sans lui adresser un seul mot de défense ou de justification, elle sortit fièrement et rejoignit sa grand-mère. Quand elles furent l'une et l'autre remontées en voiture, la tante, que n'avait pas intimidé le regard d'Hélène, revint sur sa recommandation. « Pensez au conseil que je vous ai donné, » dit-elle. « Est-ce qu'elle a jamais donné autre chose que des conseils ?» demanda Pelle-Dieu en riant. Le reste de la route se fit silencieusement. La grand-mère était peinée de n'avoir pas vu son frère. Hélène était bouleversée d'avoir vu sa tante. Enfin, ils arrivèrent au haut d'une côte. Devant eux, au milieu de vertes prairies coupées çà et là par des haies vives plantées d'arbres à hautes tiges, s'étalait une petite ville dont le centre était groupé autour d'une église au clocher pointu couvert en ardoise et dont les faubourgs, composés d'usines aux murailles rouges, percées de nombreuses fenêtres, s'allongeaient au loin en suivant le cours de la rivière. Ivranches la Folletière. Nous y voilà, dit Pelle-Dieu. Nous arrivons à la bonne heure pour faire notre effet. Cependant, malgré ce désir de faire son effet, il descendit la côte prudemment. Mais sur le plat, il se rattrapa, et ce fut au grand trot qu'il entra dans la rue du village, en faisant les quatre fouets debout à l'avant de sa voiture. Hélène eût préféré une entrée plus simple et moins tapageuse, mais elle n'essaya même pas d'en parler au joyeux Pelle-Dieu qui n'eut rien écouté. Il fallait bien qu'il se payât de sa peine. En entendant le roulement de cette charrette et cette batterie de coups de fouet, tout le monde accourait sur les portes, et du manche de son fouet, Pelle-Dieu saluait ses partisans, tandis que de la pointe, il narguait ses adversaires. Tout à coup, il recommença les quatre fouets, tandis que du bras gauche, il donnait des coups de coude à Hélène. Ils allaient arriver devant une grande maison, la plus belle et la plus importante de la rue. « L'école des sœurs, » dit-il. À ce moment, une cornette blanche parut à l'une des fenêtres du premier étage. « Ça y est !» cria Pelle-Dieu. Et aussitôt, il ralentit l'allure de son attelage. Puis, au bout d'une centaine de pas, il l'arrêta devant un vieux bâtiment délabré, haut duquel se dressait un drapeau en zinc, la mairie. Elle était flanquée de deux pavillons. Sur celui de droite, on lisait « école de garçons », sur celui de gauche, « école de filles ». Cela ne ressemblait en rien à la belle maison des sœurs.